Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Bruno Bayala.
Arrestation de Pascale Zaïda, une vingtaine d'OSC exigent sa libération immédiate et sans condition. Elle estime que le coordonnateur du cas d'expression démocratique n'a fait que dépeindre le sombre tableau de la situation nationale. Procès des présumés terroristes, l'avocat Latif Dabo dresse un bilan mitigé de la première session tenue cette semaine. Selon lui, les peines prononcées ne devraient pas en principe être prononcées par une instance de type correctionnel. En Haïti, pendant que le bilan du séisme au Saloudi à 724 morts en Côte d'Ivoire, c'est Pascal Afingé Sang du FPI qui annonce le retrait de Laurent Gbagbo du parti. Bonjour à tous et bienvenue. Des organisations de la société civile exigent la libération immédiate de Pascal Zaïda, coordonnateur du cadre d'expression démocratique. Elles ont dans une déclaration estimé que Pascal Zaïda n'a fait que dépeindre le sombre tableau de la situation nationale, laquelle situation est caractérisée par l'insécurité, par la vie chère. La vingtaine d'OSC exige donc la libération immédiate et sans condition de Pascal Zaïda, l'arrêt des répressions contre ceux qui critiquent la gestion chaotique du pouvoir et l'arrêt des velléités du rétrécissement. Du rétrécissement de l'espace civique et le respect des droits de l'homme, peut-on lire dans un communiqué. Pascal Zaïda a été interpellé vendredi, il faut le rappeler, et placé en garde à vue. Il est accusé de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la rébellion et déclaration subversive. Jeudi dernier, il a, au cours d'une conférence de presse, vigoureusement dénoncé l'insécurité, la vie chère, la corruption, mais aussi la crise foncière. Réconciliation nationale, le mouvement Agir Ensemble exige le retour des exilés politiques, notamment celui de l'ancien chef d'État Blaise Compaoré. Il dénonce également les stratégies du gouvernement dont la gestion de la crise sécuritaire que connaît le Burkina Faso depuis 2016. Déclaration faite hier samedi à Ouagadougou. Les détails avec Pierre Badolo.
Cette conférence de presse vise à exposer la situation interne de l'après-élection couplée de 2020 du mouvement Agir Ensemble et la situation sociopolitique au Burkina. Issoufou Ouédraogo, secrétaire national de Agir Ensemble.
Secrétariat national chargé des jeunes du mouvement Agir Ensemble et toutes ces structures régionales se trouvent avec vous ici ce matin pour donner notre lecture de la vie de notre parti et de la situation sociopolitique. Politique nationale. Notre parti a engrangé quelques résultats. Ainsi, il nous semble nécessaire de féliciter la direction du parti et surtout faire une mention honorable pour le président du parti, M. Boubacar Diallo, pour sa clairvoyance, son dynamisme, son leadership et tous ses efforts.
Pour le mouvement Agir Ensemble, le processus de réconciliation nationale passe par le respect des promesses de campagne de Rokaboré sur le retour des exilés. Quant à la situation sécuritaire, le mouvement demande au gouvernement un changement de stratégie militaire en stratégie diplomatique pour enfin mettre un terme à la désolation causée par le terrorisme sur les populations. Issoufou Ouédraogo.
Pour ce qui concerne la réconciliation nationale, les jeunes du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina constatent avec amertume que les grandes annonces et promesses du pouvoir en place tardent à se concrétiser et souhaitent une accélération du processus de réconciliation nationale par le respect de l'engagement de campagne du président du Faso, selon lequel le retour de l'ancien président Blaise Compaoré, le retour sécurisé de tous les exilés politiques est très attendu dans ces moments difficiles. Notre pays est devenu otage des terroristes, de l'impérialisme international et d'une dislocation du tissu social qui menace à terme son existence même en tant que nation. Au regard des résultats de la solution militaire, il serait bien d'envisager une solution politico-militaire.
Le mouvement Agir Ensemble est arrivé en quatrième position aux élections présidentielles de 2020. Il a obtenu 2 députés, il est représenté à la CENI, il prend part au dialogue politique.
Ayant prélude aux assises nationales sur la réconciliation, l'arrondissement 1 de la commune de Ouagadougou a tenu vendredi dernier ses assises communales sur la réconciliation. Ces assises ont eu pour objectif de réunir les avis des ressortissants de cet arrondissement sur la question et de faire des propositions concrètes aux autorités étatiques. Elisabeth Yanogo qui emprunte la voix d'Ibrahim Bailly.
L'arrondissement numéro 1 apporte sa touche à la réconciliation nationale. À cet effet, des assises communales se sont tenues pendant lesquelles les participants ont fait des propositions afin de faciliter ce processus de réconciliation. Adamo Kafando, premier adjoint au maire.
L'arrondissement 1, à travers ces assises, propose que, au niveau de la gestion du pays, qu'il y ait une franchise politique, que les acteurs politiques puissent se parler en face et se dire la vérité quant à ce qu'ils veulent. Que les populations ne soient pas instrumentalisées à chaque fois qu'un problème politique est posé, afin donc que nous puissions éviter les désagréments que nous avons eus de par le passé.
Au sorti de ces assises, il ressort que les hommes politiques sont les vecteurs de la division. Rodrigue Dipama pense qu'il faut une réconciliation sincère et cela passe d'abord par les hommes politiques.
Aujourd'hui, nous pensons que la réconciliation nationale est une chose qu'on doit vraiment tenir à cœur pour que les Burkinabés puissent s'entendre, puisque nous savons aussi que quand un pays, il n'y a pas la réconciliation, c'est un facteur même pour les terroristes de pouvoir s'attaquer à ces pays-là. Demandons aux politiciens d'être vraiment sincères avec ce sujet et de travailler en tout cas à ce que les Burkinabés puissent s'unir.
Ces assises ont conclu que la réconciliation nationale se doit d'être inclusive, d'où l'implication des exilés politiques. La question de la sorcellerie n'a pas été occultée au cours de la rencontre. Le secrétaire général de l'arrondissement de rassurer que la préoccupation de la population sera transmise aux autorités compétentes.
Procès des présumés terroristes, on en parle dans ce journal. L'avocat maître Latif Dabo se dit animé par un sentiment mitigé. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre au cours de l'émission Dimanche politique de ce 15 août. Un extrait de ses propos.
Satisfaction pourquoi ? Parce que cela démontre que nous sommes un état de droit soucieux, qu'on ne peut se permettre de poser les types d'actes qui ont été posés par les personnes qui ont été poursuivies ou qui sont poursuivies et rester dans l'impunité. Mitigé en tant que juriste pour la simple raison que la tenue même nous pose un certain nombre de problèmes en tant que juriste pour la simple raison que les peines qui ont été prononcées ou qui sont prononcées ne sont pas des peines qui en principe devraient être prononcées par une instance de nature correctionnelle car ce sont des peine en principe dite criminelle et qui dit peine criminelle, il y a toute une procédure qui va avec l'instance et c'est pas ce que nous avons constaté.
Toujours sur ce procès dont la première session s'est tenue du 9 au 13 août, Maître Latif Dabo pense que la presse devrait être prudente pour ne pas faire de la communication en faveur des terroristes.
Il faudrait que les journalistes, les médias évitent de faire l'apologie sans s'en rendre compte de certaines idées véhiculé par les terroristes. Il est bien intéressant, le droit à l'information, de couvrir l'événement. Mais il faut que l'on se garde de donner une tribune, une lucarne médiatique.
Est-ce que vous avez remarqué au cours de ce procès ?
Peut-être qu'il y a un élément qui est passé que les gens peut-être ne se sont pas rendus compte. Lorsque, de cœur, les journalistes se sont tous donnés à cœur de dire qu'après condamnation, il y a un des terroristes qui a eu à maudire le juge en lui promettant l'enfer. Est-ce que les gens se sont rendus compte de ce qu'il véhiculait ? En réalité, c'est un message qui a été véhiculé, mais les journalistes ne se sont pas rendus compte. Ils n'ont pas eu de le recul nécessaire. Je m'excuse de le dire, ce n'est pas que je leur enseigne le métier, mais juste pour dire qu'il faut faire attention dans la communication d'un tel procès. Le message que nous donnons à certains de ces, si je ne peux pas parler de ces collègues qui sont dans le chemin de torture, c'est que quoi ? Un des leurs, bien qu'il ait été jugé, est resté droit dans ses bottes. C'est comme si en réalité vous galvanisez sans vous rendre compte ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui attaquent nous toujours et qui fatiguent nos FDS.
Encore un an et la ville de Fada connaîtra un début d'assainissement. D'ici octobre 2022, il est prévu la réalisation de 30 km de caniveau dans la ville de Diabalompo pour un coût d'environ 7 milliards de francs CFA. La correspondance à Fada de Michel Bolouvi.
Il est question d'une activité du projet d'urgence de développement territorial et de résilience, financé par la Banque mondiale et à réaliser par l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina, AGTIB. Mais à l'origine, il y a l'entregent du maire de Fada, Yende Fimba Jean-Claude Loiry.
Ce projet va s'exécuter suite à notre demande. Nous avons fait les démarches qu'il fallait pour faire inscrire ces besoins-là dans l'exécution de ce projet. Ça vient soulager une préoccupation que nous avions depuis des années, et préoccupation que le conseil municipal n'était pas à même de prendre en charge.
Il faut dire que depuis des années, après chaque grande pluie, nombre de quartiers de la ville de Fada se retrouvaient les pieds dans l'eau. La GTIB est donc commis pour la réalisation de 30 km de travaux d'assainissement. Mathieu Lompo, DG à GTIB.
Cette composante volée assainissement de la ville de Fada a un volume environ 6,8 milliards. Travaux et études inclus.
Échaudés par les projets sans fin, les conseillers municipaux ont insisté sur la question du délai de réalisation. Réponse du DG à GTIB.
Dès la fin du premier trimestre de 2022, les entreprises seront sur place pour réaliser les réseaux d'assainissement qui sera étudié et validé. On ne pourra pas faire tout en un temps record et on va essayer de prioriser. Ce que les 7 milliards, les 6 milliards 800 pourront faire, on va le faire.
Le délai est de 11 mois, soit 4 mois pour les études d'ici à février prochain et 7 mois pour les travaux. Il est également question de revoir les 15 km de caniveau existants et jusqu'ici insignifiants et dont la plupart sont hors d'usage, convertis en poubelles et dépotoirs, dit Michel Bolouvi, Fadangourma, Radio Omega.
Guy Michel Bolivie, vous restez avec nous pour parler cette fois de la menace d'une crise alimentaire à l'Est. C'est avec la régularité des pluies depuis la fin du mois de juillet. La campagne agricole est bien installée dans la région de l'Est, mais plane encore le spectre des terres abandonnées par les producteurs pour cause d'insécurité.
La donne pluviométrique diffère d'une province à l'autre, mais rien d'alarmant. Philippe Yonli, le président de la Chambre régionale d'agriculture de l'Est.
Cette année, pour dire vrai, la saison s'est réellement installée fin juillet, début août. Bon, mais il y a des exceptions. Si on prend la province de la Nyanya, comparativement aux autres années, eux, ils sont vraiment en avance par rapport aux autres. Si je prends le cas de Kompienga, où chaque année, c'est la province au niveau de la région qui recevait vraiment les premières pluies. Mais cette année, la saison s'est installée là-bas fin juillet, début août. Mais quand j'ai fait le tour des provinces, en tout cas, il y a l'espoir.
Espoir sous condition, mais espoir tout de même.
Présentement, presque chaque deux jours, vraiment, il y a la pluie. Notre espoir vraiment est tourné vers le Dieu céleste. Si vraiment les pluies peuvent aller jusqu'en octobre, je crois qu'il y a plus de peur que de mal. En tout cas, il y aura à manger.
Espoir, quand bien même, il faut signaler une carence humaine et la probabilité d'une crise alimentaire en lien avec la crise sécuritaire.
Cette année, nous sommes vraiment confrontés à une grosse difficulté. Il n'y a pas vraiment les engrais. Un producteur, quand il produit et que vraiment il n'y a pas l'engrais, ça coince à quelque part.
Problème, l'année dernière déjà on parlait de ça, le fait que beaucoup de terres cultivables ont été désertées pour cause d'insécurité. Comment se présente la situation cette année?
Je crois que ce problème-là est connu de tous. Hein. Il y a des villages entiers où vraiment à cause de l'insécurité, ils sont obligés vraiment d'aller là où vraiment ils vont être en sécurité. Donc c'est pour dire que au niveau de la région, nous suivons tous vraiment ça impuissamment. Il y a une crise vraiment alimentaire qui s'annonce vraiment à l'horizon.
Guy Michel, Bolouvi, Fadangourma, Radio Omega.
L'Union nationale des rogats du Burkina a tenu du 12 au 14 août les 72 heures du pasteur et de l'agro-pasteur à Bitou dans la province du Boulgou. Placé sous le thème « Contribution des réseaux de promotion de l'élevage au débat sur l'avenir du pastoralisme face à l'insécurité et son impact en marge de l'AG des rogats ». Trois jours d'échange entre les éleveurs venus du Burkina, du Togo, du Bénin, du Ghana, du Niger et du Tchad. Omega Média Bitou, Yaya Diomandi.
Le secteur de l'élevage constitue le troisième poste d'exportation au Burkina, avec plus de 26% des exportations du pays. Mais ce secteur est menacé par les fléaux du terrorisme et du Covid-19 qui mettent à risque la transhumance. Afin de trouver des solutions à ces difficultés, les leaders d'éleveurs pasteurs se sont réunis à Bitou pour échanger autour du thème « Contribution des réseaux de promotion de l'élevage au débat sur l'avenir du pastoralisme face à l'insécurité et son impact en marge de l'Assemblée générale des rougas ». Amir de Bandé est le rouga national.
Les problèmes de sécurité avec les problèmes de coronavirus, là, il a fatigué les éleveurs. Les éleveurs, il est trop de difficultés parce que partout, tu ne peux pas aller librement. Tout que tu n'es pas, c'est le problème.
Ce séminaire a a vu naître le bureau exécutif d'une fêtière sous-régionale des Rougas de l'espace CDAO. Présent à la clôture des activités, le ministre en charge de l'élevage, Modeste Yerbanga, salue l'établissement de cette nouvelle organisation sous-régionale.
Vous savez, le contexte d'insécurité actuelle nous amène à repenser quel type de pastoralisme envisager. C'est quand même important pour eux de s'organiser dans la sous-région pour voir comment ensemble ils vont lutter contre les tracasseries inhérentes à la transhumance et également contre l'insécurité grandissante dont ils sont souvent victimes à tort ou à raison.
À la sortie de cette plateforme d'échange entre éleveurs venus du Burkina et de plusieurs pays de la sous-région, des décisions ont été prises afin de faciliter la pratique de l'élevage et de la transhumance dans un environnement d'insécurité et de COVID-19. Yaya Diomandé, Bitou pour Radio Omega.
Et nous sommes en Côte d'Ivoire pour parler actualité hors de nos frontières. Depuis l'annonce samedi dernier d'un cas de la maladie à virus Ebola, les services de santé et les acteurs intervenant dans les épidémies sont mobilisés. La riposte est en cours et se renforce. Et hier dimanche, le ministère de la Santé a élaboré avec les partenaires comme l'OMS, la Banque mondiale, l'UNICEF, la Croix-Rouge, un plan de prévention et d'autres plans. Le plan sera déployé dès demain mardi dans tout le pays. Toujours en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a été exclu du FPI. Le camp du Front populaire ivoirien, présidé par Afi Nguessan, a entériné samedi la rupture avec Laurent Gbagbo à la suite de sa décision, celle de créer un autre parti à l'issue d'une session du comité central. Pour Pascal Afi Nguessan, l'ancien président ivoirien veut créer son parti parce que le FPI lui impose la démocratie, lui refuse l'idolâtrie et le culte de la personnalité, alors il part pour se tailler un parti. Sur mesure, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse que nous écoutons.
Gbagbo a choisi la rupture. C'est son choix. Nous ne l'avons pas voulu. Laurent Gbagbo a décidé de m'arracher le parti sans même chercher à m'entendre. Les Ivoiriens attendaient le retour de l'homme de paix et du démocrate. Ils découvrent mon âme. Ils se croient propriétaire du FPI, sa chose, dont il peut disposer à sa guise. Les cadres du parti sont les obligés. Le FPI n'est pas une chose. Il est vrai que l'histoire du FPI est inséparable de la lutte et du parcours politique de Laurent Gbagbo. Mais c'est une grave erreur politique de réduire le parti à cette dimension. Gbagbo ne s'est pas fait lui-même. C'est nous tous qui l'avons fait. Mais désaccord avec lui sur certaines questions peut-il être considéré comme une marque d'ingratitude? Dans ce domaine, c'est l'homme qui fait l'homme, comme disent les Ivoiriens. Nous l'avons fait, en retour, il nous a fait. Il nous doit, nous lui devons. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo quitte le FPI parce que le parti lui oppose et lui impose la démocratie. Le comité central qui vient de se réunir a entériné la rupture. Il me met en mission désormais pour mener ce combat de la renaissance et de la modernisation du FPI.
À l'instant, Pascal Afi Nguessan du Front populaire ivoirien au micro de nos confrères de RFI. En Haïti, le bilan provisoire du séisme de magnitude 7,2 samedi dernier s'est alourdi hier dimanche. Selon les services de protection civile du pays, le bilan humain du tremblement de terre est passé en début de journée du 15 août à 724 morts, précise un communiqué. Il y a 11 ans, un autre tremblement de terre avait ravagé l'île caribienne, occasionnant plus de 230 000 morts. Des catastrophes qui s'expliquent notamment par la géologie du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Radio Omega, l'info en direct.